Le psaume 96, versets 7 à 9. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, toute la terre. Bonjour à tous, frères et sœurs. J'ai trouvé ce cantique numéro 382 d'Hymne et Louange très expressif de la méditation que j'aimerais qu'on puisse avoir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Où il est écrit « Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur. Le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure dans l'épreuve, un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. » Voilà une expression, une merveilleuse expression de relation avec Dieu dans la souffrance et de ce qui ressort de cette expérience avec Dieu, de cette communion avec Jésus-Christ dans ses souffrances. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Seigneur, selon ta promesse, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur. Le rayon qui rassure, je l'ai trouvé dans la plus sombre nuit. Et c'est devenu pour moi un baume à ma blessure. Et dans l'épreuve, un appui. Donc notre expérience des souffrances, et à plus forte raison des souffrances de Jésus, dans cette communion-là, elle devient pour nous un appui dans l'épreuve. Un baume à nos blessures. Parce qu'il a été meurtri pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Donc ça, c'était pour faire le lien avec la méditation que nous avons eue sabbat dernier sur le mystère que nous trouvons lorsque nous traversons les souffrances, lorsque nous endurons les souffrances telles que Dieu le désire que nous le fassions. Et aujourd'hui, c'est une étude qui n'est pas forcément une évidence comme étant une suite logique, mais vous allez voir que, ou du moins dans mon expérience, ça s'est révélé comme la chose qui découle de cela. Parce que après notre souffrance et que nous apprenons à tenir la main du Seigneur Jésus dans ces expériences-là, qui sont amères, eh bien, ces souffrances-là, elles deviennent un tremplin pour nous propulser vers une dimension supérieure, plus élevée, dans notre marche avec Dieu. Donc c'est ça que j'aimerais que l'on puisse méditer aujourd'hui. Et donc si nous venons ici, si nous repensons à notre lecture biblique, J'aimerais que vous réfléchissiez avec moi, que nous méditions ensemble sur ces pensées-là, qui sont suscitées par ces paroles. Notamment, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, toute la terre. Nous avons été créés, frères et sœurs, créés pour le service. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Nous avons été créés pour adorer celui de qui procède la vie. Nous sommes créés pour cela. C'est notre destin. C'est notre but, tel que Dieu avait à cœur lorsqu'il nous a amenés dans l'existence. Et nous voyons cela notamment lorsque nous regardons les arbres, lorsque nous regardons les fleurs, lorsque nous regardons, nous observons l'herbe des champs. C'est que toutes ces œuvres de la création de Dieu ont les mains levées vers le ciel. Sauf peut-être quelques exceptions, vous me direz, un saule pleureur, ça regarde vers le bas, mais c'est une illustration de ce que Dieu ne veut pas que nous soyons. Les arbres ont leurs branches élevées vers le ciel. Ils sont créés d'une telle manière qu'ils rendent gloire à Dieu par nature. Et c'est aussi l'objet de notre naissance, de notre création, de notre existence. Et c'est d'ailleurs précisément le langage du premier ange d'Apocalypse chapitre 14. Allons-y ensemble dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, quoi ? Craignez Dieu et lui donnez gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Quel est le langage du premier ange? Craignez Dieu? Dans quel sens? Donnez-lui gloire. De la même manière que la création lui donne la gloire par nature et par dessein et par destin. La nature donne la gloire à Dieu. Et nous, habitants de la terre, sommes appelés à craindre Dieu, à lui rendre, à lui donner, à lui rendre gloire. Et à adorer le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et maintenant, revenons ensemble à ce cette lecture biblique du psaume 96 et examiner le langage qui est employé ici. Le psaume 96, versets 8 et 9. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, toute la terre. Et si j'aimerais attirer votre attention vers le verset 9, qui, dans la Bible Darby, nous est rendu comme ceci. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. Et dans la Bible King James, il est écrit littéralement, adorez l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis, adorez l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Ici, nous avons le centre thématique de notre méditation pour aujourd'hui. Adorer l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Examinez avec moi ce langage. Notamment en vous posant ces questions pour susciter notre réflexion. Cette adoration dont il est question ici, est-ce que c'est simplement une activité hebdomadaire? Ou encore de brèves interludes parsemées dans les différents jours de nos semaines? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Est-ce que c'est de cette adoration-là qu'il s'agit? Est-ce une adoration purement hebdomadaire? Est-ce de cela dont il s'agit? Ou une adoration telle que nous en avons dans nos brèves interludes lorsque nous prenons du temps à part pour adorer Dieu de manière formelle, cérémonielle? Est-ce cette adoration-là dont on nous parle ici? Deuxième question. La beauté dont il est ici question. Est-ce qu'elle est purement physique? Une beauté externe, superficielle? Est-ce que c'est de cela dont il s'agit ici? Ces ornements sacrés, cette sainte magnificence, cette beauté de la sainteté? Ou s'agit-il de quelque chose de plus profond? C'est ce que nous voulons explorer dans notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui. L'adoration et la beauté. Et l'adoration dans la beauté de la sainteté. Allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. En relevant notamment les passages du verset 5 à 6 et 9 à 10. La raison pour laquelle je pose cette question, frères et sœurs, c'est à dessein, c'est parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde, et tout particulièrement dans les cercles du christianisme moderne, et aussi de l'adventisme moderne, un monde où l'adoration semble être une activité d'interlude, une activité séparée. circonscrite, une activité qui n'a de place qu'à certains moments et à certains endroits. Et ici, dans notre étude de la parole de Dieu, notamment à la lumière de ce passage du psaume 96 que nous sommes en train de méditer, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est que nous examinions si l'adoration à laquelle Dieu nous appelle, c'est purement une activité exclusivement dédiée à certains moments et certains lieux, ou si c'est quelque chose de plus étendu, de plus vaste, qui a plus trait à notre fort intérieur et à l'activité de nos pensées, de nos méditations, de nos contemplations, de nos paroles. C'est ça que j'aimerais que l'on puisse voir. Et bien sûr, j'ai déjà donné un certain indice, mais ce n'est pas grave, parce que le but de la parole de Dieu, de notre étude de sa parole, ce n'est pas de mettre du suspense, c'est de comprendre et de pouvoir adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. La beauté qui est attirante à l'Esprit de Dieu. Voyez maintenant pourquoi il y a ce langage de beauté. La beauté, c'est quelque chose qui a de l'attrait pour l'homme, pour nous sur la terre. La beauté est attrayante. Et Dieu, lorsqu'il demande que nous lui rendions la gloire, il demande que nous le fassions avec la beauté de la sainteté. Et nous voulons voir de quoi il s'agit ici. Dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2 verset 1 et suivant. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulations, d'envie et de médisances, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. » Donc qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous lisons plutôt ici? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Que sommes-nous? Des pierres vivantes. De la même manière que Jésus nous est présenté comme la pierre vivante qui a été rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Elle est précieuse, elle est belle aux yeux de Dieu. Et de la même manière, nous, comme des pierres vivantes que Dieu nous dit que nous sommes, nous sommes édifiés de la même manière que nous bâtissons une maison et que nous élevons un mur, nous sommes édifiés pourquoi ? Pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons venir à Dieu, adorer l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Eh bien ici, on nous dit que nous sommes une maison spirituelle. une sacrificature sainte, appelée à offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hein, nous lisions dans le psaume 96, verset 8, que nous sommes appelés à entrer dans ses parvis, à faire nos offrandes, à rendre à Dieu la gloire due à son nom. Quel genre d'offrande? Eh bien, des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, attrayants à lui, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quel est ce sacrifice spirituel? Ces sacrifices spirituels agréables à Dieu que nous sommes appelés à offrir par Jésus-Christ. Nous sommes maintenant la sacrificature royale et sainte, la nation sainte, le peuple acquis, que Dieu s'est acquis, par le don de son Fils, n'est-ce pas? Pourquoi s'est-il acquis ce peuple-là? Pour qu'ils annoncent, qu'ils manifestent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu fait de nous, lorsque nous venons à lui par les mérites et le sang du Seigneur Jésus-Christ, il fait de nous maintenant une sacrificature royale. Royale parce que nous sommes appelés enfants de Dieu comme faisant partie de la famille royale dont Dieu est le Père, Jésus est le Fils. Nous sommes maintenant une nation sainte. Nous n'étions pas un peuple, mais nous sommes maintenant devenus un peuple. Pourquoi? Parce que, comme nous le lisons au verset 7, et je lis selon ce qui est écrit dans la Bible King James pour la première phrase, « Elle est donc cette pierre que Dieu pose en Sion, Jésus, choisie et précieuse. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. » Cette pierre. Ce rocher. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Qui les a destinés? Eux-mêmes. Ils se sont destinés par leur désobéissance à la parole, par leur résistance à la pierre angulaire. Et nous qui n'étions pas un peuple, eh bien nous sommes devenus un peuple, le peuple de Dieu, parce que nous n'avons pas désobéi à la parole et parce que nous brisons sur le rocher plutôt que de nous exposés à une destruction totale en nous plaçant sous la condamnation du rocher, tel que Jésus l'avait dit. Et donc, étant ce peuple acquis, cette nation sainte que nous sommes devenus, que nous devenons par notre cœur brisé, par notre repentance, étant devenu ce peuple cette nation sainte. Eh bien, Dieu nous a acquis comme cela. Nous a rachetés à lui pour que nous annoncions les vertus de celui qui fait naître la lumière dans les ténèbres. Et c'est intéressant parce que ici, ce verset 9, dans la Bible King James, il y est écrit pour annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres, etc. Et dans la note de marge de cette même Bible King James, il y a marqué pour annoncer les vertus, telles que c'est précisément écrit ici dans notre Bible Osterwald. Mais c'est intéressant parce que il s'agit d'une activité, cette activité de manifester les vertus, de publier les louanges de Dieu comme étant notre mission en tant que pierre vivante de cet édifice que Dieu bâtit, eh bien, c'est lié à une activité d'adoration. Vous comprenez maintenant le lien. Mais c'est-à-dire qu'il faut progresser jusqu'à cela. Dieu s'est acquis un peuple, il s'est racheté un peuple, il a payé le prix pour cette nation qui n'était pas une nation. Ce peuple qui n'était pas un peuple, mais qui est maintenant devenu le peuple de Dieu, il a payé le prix pour cela. Pour faire quelque chose. Parce qu'il désire un peuple qui rend à Dieu la gloire. Un peuple qui publie les louanges ou les vertus de Dieu. Un peuple qui annonce par sa vie la sainteté de Dieu. Un peuple qui adore dans la beauté de la sainteté. Et là, j'aimerais vous proposer un élargissement. Un élargissement de des détails de cette sainte magnificence dont la Bible d'Arby nous parle. De cette beauté de la sainteté. Et comment cela se traduit dans notre vie quotidienne et pratique. C'est ce que j'aimerais que l'on puisse faire à travers le restant de notre méditation. Dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, tout d'abord, nous trouvons une expression pour laquelle il nous faut du discernement pour discerner, notamment, le lien entre cet appel, cette mission, cette responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de manifester la sainteté de Dieu, de publier les vertus de Dieu à travers notre propre existence, notre propre vie, nos faits et gestes et paroles. Et encore une fois, j'aimerais mettre en avant le fait que la raison pour laquelle cela est important, c'est que, notamment si nous voulons nous concentrer sur cela, dans les milieux adventistes par exemple, comme c'est aussi le cas dans de nombreux cercles du christianisme moderne, l'adoration, nous donnons une place à l'adoration, nous donnons un temps à l'adoration, nous donnons souvent un lieu consacré à l'adoration. Mais souvent, ce n'est que une activité des lèvres. Ce n'est que une activité de l'intellect, peut-être une activité des poumons, mais ce n'est pas pour autant et nécessairement perçu comme devant être une activité permanente du cœur et de la vie. Et les moments de chant n'étant qu'une partie infime de cela. Vous comprenez ? C'est ce que j'aimerais que nous puissions discerner aujourd'hui pour élargir cette notion d'adoration. Et que tous ces psaumes, toutes ces déclarations, tous ces appels à l'adoration ne soient pas perçus comme par nous comme étant simplement un appel à chanter, un appel à parler, mais que ce soit que nous les percevions, que nous les entendions, que nous les lisions, que nous les comprenions comme un appel large à annoncer les vertus de celui qui seul peut faire naître la lumière des ténèbres. Dans Romains, nous y allons, Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc autrement dit, moi de par moi-même, nous de par nous-mêmes, frères et sœurs, nous n'avions pas, en dehors de Dieu, cette possibilité d'obéir à la loi, et d'être délivrés, de nous délivrer nous-mêmes de l'emprise du péché et de la condamnation de la loi. Mais ce qui était impossible à la loi et à nous dans notre observation de la loi sans l'aide de Dieu, eh bien Dieu l'a rendu possible. Il l'a fait, verset 3. Comment ? En envoyant Jésus dans la même nature que nous, dans une chair semblable à celle du péché, la chair de péché qui est la nôtre. Et pour le péché, comme c'est écrit dans la Bible King James, dans la note de marge, et en sacrifice pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Comment est-ce qu'il a condamné le péché dans la chair? En vivant dans cette chair de péché et en ne se mettant pas sous l'emprise du péché. C'est-à-dire en ne cédant jamais à la tentation, tel que c'est écrit. Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et en ce qu'il a condamné le péché dans la chair, en mourant avec le péché du monde en son corps sur le bois. Et en cela, à travers cela, Dieu a rendu possible pour nous d'observer la loi et donc de ne plus être sous aucune condamnation tant que nous marchons, que nous sommes en Jésus-Christ, que nous marchons non selon la chair, non selon les propensions de la chair, non selon les appels de la chair et les désirs de la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Non selon notre esprit qui est charnel, mais selon l'Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur de nous et à travers lequel Jésus peut être Dieu en nous Et à travers cette expérience et cet accomplissement de Dieu en Jésus-Christ, il devient possible pour nous que la justice de la loi soit accomplie en nous. Verset 4, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, c'est une beauté en soi, n'est-ce pas? De pouvoir faire ce qui est impossible à l'homme de faire. C'est un témoignage, c'est une annonciation, c'est une publication des vertus, des louanges et de la sainteté de Dieu. Non pas la sainteté de l'homme, parce qu'il n'en a pas, mais la sainteté de Dieu, en ce que lorsque nous nous confions en Dieu et dans l'œuvre qui a été accomplie par Dieu en Jésus-Christ, eh bien, la sainteté de Dieu paraît. Parce que nous manifestons Christ en nous, l'espérance de la gloire. De la gloire de Dieu. Nous manifestons une progression dans la sainteté, et ceci est en soi une beauté qui rend notre culte, notre adoration agréable à Dieu. Et c'est ici un sacrifice spirituel agréable, en harmonie avec ce qui est marqué dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, je crois, que nous devons offrir nos corps en sacrifice. Ce qui est notre culte raisonnable, c'est ça notre culte, c'est l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Et ceci est agréable à Dieu, et ceci plaît au Seigneur, et ceci manifeste la beauté de la sainteté. Et verset 13, nous poursuivons. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. La création attend, frères et sœurs. Est-ce nous qui attendons? Oui. Mais la création, la première, attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Ça me fait penser à ce qui est marqué dans 1 Jean chapitre 3. Nous lisons verset 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu par la foi. Et la réconciliation qui est en Jésus-Christ à Dieu, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans notre méditation de sa parole. Et la création attend que les enfants de Dieu soient manifestés. En quoi? Comment les enfants de Dieu seront manifestés? Seront-ils manifestés seulement lorsque leurs corps sont glorifiés? Est-ce cette manifestation à laquelle nous devons nous attendre? Est-ce une manifestation qui n'appelle aucune responsabilité de notre part, aucune réponse de notre part? J'ose dire, frères et sœurs, que ce n'est pas cette manifestation-là dont il s'agit ici. Et j'aimerais attirer votre attention vers le passage de Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Verset 7. La création attend, nous dit-on. Et ici, je lis comment la création se comporte. Écoutez-le. Jérémie 8, verset 7. La cigogne même connaît dans les cieux ses saisons. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. La création connaît son rôle. La création répond aux attentes du destin de Dieu pour elle, du dessein de Dieu à son égard. La cigogne sait. Elle connaît les lieux. Elle connaît dans les cieux ses saisons. Elle reconnaît les choses que Dieu a ordonnées. La tourterelle, l'hirondelle et la grue, elles observent le temps où elles doivent venir et elles discernent le moment où il leur faut venir ou partir. Elles obéissent aux ordonnances de Dieu. Mais mon peuple, dit le Seigneur, ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Que ne connaît pas le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu connaît ses désirs. Mais il choisit parfois de ne pas connaître, de ne pas se soumettre, de ne pas admettre les jugements, les ordonnances, les commandements et la volonté de Dieu. Et d'où la réponse, d'où la raison pour laquelle la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Elle attend que les enfants de Dieu se comportent aussi diligemment, aussi avec une même obéissance qu'elle se comporte envers son Créateur. Et c'est écrit aussi dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà ce que la création attend. Elle attend que les enfants de Dieu aient une telle connaissance de Dieu, une telle intelligence dans les voies de Dieu, un tel discernement, un tel esprit qu'elle connaîtra son Créateur et qu'elle se soumettra à l'activité du potier. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qui fait toute la beauté de la sainteté. Lorsque nous sommes soumis tel que la création est soumise à son Créateur. C'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est ce que nous sommes appelés à être. Dans le message du premier ange, j'y retourne ici, parce que c'est si lourd de sens, vous le lisez, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. La cigogne sait, l'hirondelle, la tourterelle, le bœuf et l'âne connaissent leur Créateur. Ils obéissent à la voix de celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et nous sommes aussi appelés à adorer, à répondre au dessein de Dieu dans notre création. C'est ce vers quoi je voulais attirer votre attention au tout départ, que nous avons été créés pour servir. Nous avons été créés pour aimer et être aimé, créés pour adorer celui de qui nous tirons le souffle de la vie. Créés pour servir, créés pour aimer et être aimé de Dieu, créés pour l'adorer, créés pour lui rendre la gloire due à son nom. Et dans cet appel, frères et sœurs, dans cet appel à nous prosterner devant l'Éternel, à l'adorer dans une sainte magnificence, eh bien, il est un devoir qui est le nôtre. Un devoir que seule une argile malléable peut satisfaire et remplir. Et on le trouve dans le psaume 19. Le psaume 19, verset 8. Verset 8 à 12 et verset 15. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui est essentiel pour cultiver en nous cette beauté? Et pour que nous puissions annoncer la beauté de Dieu, les vertus, la sainteté, les louanges de Dieu. Nous le lisons ici, le psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que ce qui découle des rayons de miel. Aussi ton serviteur est éclairé par eux. Il y a un grand salaire dans leur observation. Verset 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Comment est-ce que nous pouvons offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ? En faisant des paroles de ma bouche et des méditations de mon cœur quelque chose qui soit agréable au Seigneur. Et comment est-ce que je vais pouvoir trouver ce qui satisfait à cette attente élevée dans ce que nous avons lu juste avant? La loi de l'Éternel, sa parole, est parfaite. Elle restaure l'âme. Là où nous étions moches, là où nous étions esquintés, là où nous étions blessés, elle restaure l'âme. Elle restaure en nous la beauté de la sainteté de Dieu. Le témoignage de l'Éternel, de ses prophètes, il donne de la sagesse aux simples. Il nous donne la connaissance de Dieu. Il fait que nous devenons comme l'âne qui connaît son maître et le bœuf qui connaît son possesseur. Que nous devenons maintenant sujets et soumis à notre Créateur. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Elles nourrissent en nous cette beauté qui seule est agréable à Dieu. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Il efface et annule et détruit ces choses qui ont pris notre vision, qui nous ont aveuglés. C'est un collyre pour nos yeux, c'est le témoin fidèle et véritable qui vient nous l'appliquer dans notre méditation de sa parole inspirée. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité. C'est une source perpétuelle de réjouissance pour celui qui aime et qui craint Dieu de manière consciente dans cette beauté de la sainteté. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes. Ils rassurent le cœur de l'homme et de la femme qui craint Dieu et qui souhaite voir sa volonté accomplie au travers de toute la création. Et toutes ces choses-là sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin. Aussi, je lis le verset 12, « Aussi ton serviteur est éclairé par eux, il y a un grand salaire dans leur observation. » Un grand salaire dans l'observation de la parole de Dieu, de la loi, des témoignages de l'Éternel. Des témoignages de l'esprit de prophétie qu'on ne saurait manquer d'inclure dans cette compréhension concise mais exhaustive de ce que Dieu veut qui soit l'objet de nos méditations constantes, comme c'était écrit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Seigneur. Mon rocher et mon rédempteur. Et j'aimerais conclure notre méditation par cette citation de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le livre Éducation, à la page 217 jusqu'à la page 218. Lorsque s'est éveillé un amour authentique pour la Bible et que celui qui l'étudie commence à comprendre l'immensité du champ qui s'offre à lui et la valeur du trésor qu'il possède, il désirera saisir toutes les occasions de se familiariser avec la parole de Dieu. Son étude ne se limitera pas à un lieu, à un moment particulier. Cette étude constante est un des meilleurs moyens d'entretenir un amour pour les Écritures. Que l'étudiant de la Bible garde ce livre toujours avec lui. Lorsque vous en avez l'occasion, lisez un texte et méditez-le. Quand vous marchez dans la rue, quand vous attendez un train ou l'heure d'un rendez-vous, profitez-en pour glaner dans le trésor de vérité quelques précieuses pensées. Les grandes forces motrices de l'être sont la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est vers elles que mène une étude approfondie de la Bible. La beauté extérieure de la Bible, ses images, son style, n'est que l'écrin de sa véritable richesse. Quoi ? La beauté de la sainteté. Quelle est la véritable richesse qui est embellie par les images et le style de la parole de Dieu? C'est la beauté de la sainteté. C'est cela qui représente la richesse primordiale et principale de la parole de Dieu. La beauté de la sainteté. Et comment est-ce que nous discernons cette beauté de la sainteté, vu que ce n'est pas donc un signe simplement externe et une apparence? On nous le dit dans les récits retraçant la vie des hommes qui marchèrent avec Dieu, nous pouvons entrevoir la gloire divine. À travers celui dont toute la personne est désirable, nous voyons celui dont la terre et les cieux ne sont qu'un faible reflet. Et moi, elle cite, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, disait Jésus dans Jean chapitre 12, verset 32. Celui qui, dans son étude de la Bible, contemple le Rédempteur, sent s'élever en lui une force mystérieuse de foi, d'adoration et d'amour. Le regard fixé sur Christ, il se transforme à la ressemblance de celui qu'il adore. Les mots de l'apôtre Paul deviennent le langage de son âme. De point, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Les sources de la paix et de la joie céleste, libérées dans l'âme par les paroles de l'inspiration, ruisselleront de bénédictions pour tous ceux qui en approcheront. Que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui grandissent, Bible en main, deviennent les vases et les canaux où coulera l'eau de la vie. Et quels flots de bénédictions se répandront alors à travers le monde. Des influences dont nous ne concevons pas la puissance de guérison, de réconfort. Des fleuves d'eau vive, des sources jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et toutes ces choses-là, nous les trouverons dans notre contemplation de Dieu et de Jésus dans sa parole. Et notre étude de la parole de cette manière, elle deviendra en nous, elle produira en nous des fleuves d'eau vide, d'eau vive, des sources jaillissantes qui jaillissent jusque dans la vie éternelle comme Jésus l'avait promis à la femme samaritaine. Et donc ici, ce dont on nous parle ici, donc ce dont le Seigneur nous parle, c'est une étude qui ne se limite pas à un lieu ou à un moment particulier, mais qui est une étude constante. Et nous disons que cette étude constante est un des meilleurs moyens d'entretenir un amour pour les Écritures. Que l'étudiant de la Bible que l'étudiant de la Bible garde ce livre toujours avec lui. Lorsque vous en avez l'occasion, lisez un texte et méditez-le. Quand vous marchez dans la rue, quand vous attendez un train ou l'heure d'un rendez-vous, profitez-en pour glaner dans le trésor de vérité quelques précieuses pensées. Et ces précieuses pensées à l'intérieur de nous, elles deviennent ensuite cette source qui jaillit, cette beauté qui resplendit et cette ressemblance divine qui est reflétée sur nos visages et à travers tous nos faits et gestes. Et donc, c'est ici que nous voyons que la place de la parole dans notre vie est primordial pour que nous soyons à même d'adorer Dieu de la manière qui lui est agréable, de l'adorer dans la beauté de la sainteté. Et donc voilà, frères et sœurs, je mettrai à votre disposition les citations en lien. Et j'aimerais que l'on relise, pour terminer sur la note principale de cette étude aujourd'hui, que l'on revienne sur le psaume 96 et que l'on puisse le lire en entier, parce que quand je l'ai lu l'autre jour, je crois que c'était plus tôt, c'était l'expression de mon âme. Et C'est d'une telle importance que nous arrivions à cerner la beauté de la sainteté dans sa parole et que nous arrivions à nous familiariser avec cette beauté de telle sorte que cette beauté fera partie de nous et que nous serons présentés à Dieu dans cette expression du psalmiste, notamment ici, et que nous serons retrouvés dans l'expression des hommes qui ont marché avec Dieu. Et que maintenant, ce soit devenu à nous que nous ayons fait ces paroles les nôtres. Je lis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. car l'Éternel est grand et digne de grandes louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la majesté sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et ne chancelle point. Il jugera les peuples avec équité. Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les campagnes s'égaient avec tout ce qui est en elle, que tous les arbres des forêts chantent de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Le psaume 97. L'Éternel règne, que la terre tressaille de joie, que les îles nombreuses se réjouissent. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez son saint nom. Amen.